Constantin de Vergennes, bonjour. C'est toujours heureux de vous avoir avec nous sur les ondes de Radio Maria France.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Cette semaine, chez France Catholique, vous poursuivez hein, la série commencée la semaine dernière. Vous explorez cette semaine l'article du Credo « Je crois en l'Église une sainte ». Et là, vous nous parlez donc de la sainteté de l'Église. Nous comprendrons par la suite que c'est une démarche pieuse, comme Sainte Véronique qui veut essuyer la face salie de l'épouse du Christ et lui rendre son essentielle pureté hein, cette semaine.
Oui, alors nous avons effectivement, on a lancé cette série de quatre numéros, hein, juste pour rappel, en réaction aux déclarations qui ont eu lieu à Lourdes il y a 2 semaines hein, par les évêques au sujet des abus. On a pu constater la réaction de catholiques qui se sont sentis blessés, qui peuvent buter, disent-ils, hein, le dimanche notamment à la messe, lors de la récitation du credo sur cet article, sur les divers attributs de l'Église. Et comme le disait Monseigneur Hayet dans les colonnes du journal la semaine dernière, hein, il y a sans doute derrière cette crise des abus, surtout une crise de la foi. Et donc l'idée était de rappeler, d'explorer à nouveau et d'expliquer ces attributs de l'Église. Et donc cette semaine, la sainteté de l'Église, et qui est peut-être le point le plus important quand on évoque le péché des uns et des autres.
Et pour aller plus en profondeur dans cette crise de la foi dont vous parlez, vous convoquez le dominicain Augustin Pic, auteur de « Dieu dans l'Église en Christ » aux éditions du Cerf, n'est-ce pas ?
Oui, avec nous, il revient, il nous explique sur cette articulation assez complexe à saisir hein, de l'Église en tant qu'à la fois œuvre divine et réalité humaine. Nous avons voulu voir avec lui, lui soumettre cette question, cette objection, cette phrase qu'on entend parfois, de plus en plus. On entend, vous savez, des personnes qui parlent des péchés de l'Église ou de l'Église pécheresse. Et qu'est-ce qu'il faut faire de cette expression quand on professe en même temps que l'Église est sainte ? Alors, le père Augustin Pic, fait une mise au point. Il dit que c'est une commodité de langage, mais que dogmatiquement, parler des péchés de l'Église ou de l'Église pécheresse n'est pas juste. Et pour nous éclairer en une phrase, il cite le cardinal Journet qui disait que l'Église est toujours sans péché, mais elle n'est jamais sans pécheur. Et cette simple phrase permet de distinguer l'œuvre humaine de l'œuvre divine, et c'est le point central, puisque l'une ne va pas sans l'autre. Et c'est bien la sainteté, justement, qui permet de faire le lien entre l'aspect humain et l'aspect divin de l'Église.
Justement, cette sainteté dont Augustin Pic nous rappelle que Dieu ne nous a fait capables du meilleur, c'est-à-dire d'être unis à lui, qu'en nous créant capables du pire, c'est-à-dire d'imiter Satan, en nous préférant nous-mêmes à tout.
Oui, alors avec son autorité de dominicain, le père Pic se permet de dire que c'est à la fois simple et mystérieux, hein, ce rapport humain-divin. Il développe en disant que si l'Église n'est pas simple, si l'Église n'est pas sainte, eh bien à ce moment-là, elle ne serait pas œuvre divine. Or, l'Église est une œuvre divine, et si je puis dire, c'est historique, en ce sens que l'Église a été instituée par le Christ, et qu'elle est donc une œuvre divine, et qu'elle est donc une œuvre sainte. Dans le même temps, si l'Église était sans pécheur, elle ne serait pas humaine, puisque c'est dans notre multitude, dit le père Augustin Pic, que se recrutent les membres de l'Église. Alors, dès lors, si l'Église n'est qu'une œuvre humaine de rassemblement de pécheurs, sans assistance, sans constitution divine, on ne voit pas comment les hommes pourraient y faire leur salut, et puis surtout comment l'institution pourrait tenir depuis 2000 ans. Hein, il n'y a pas d'autres institutions au monde qui tiennent comme cela à travers les siècles depuis 2000 ans. Alors la solution, c'est bien que l'Église est bien sans péché, mais elle n'est pas sans pécheur et elle est donc sainte. Alors on pourrait objecter qu'il est cruel de se savoir pécheur hein, dans une structure sainte, qu'il serait cruel que Dieu nous mette dans une structure sainte sans que nous soyons automatiquement saints. Mais le père Pic nous rappelle que cela est dû à l'amour de Dieu. Alors ça paraît un peu contre-intuitif au premier abord, mais il explique bien que l'amour va toujours de pair avec le libre arbitre et que si nous étions placés dans une structure sainte en étant automatiquement sainte, eh bien nous aurions plus de libre arbitre et dès lors, eh bien Dieu ne nous aurait pas créés par amour.
Et une église sainte et une église qui force l'admiration même des incroyants les plus coriaces. Il se permet de citer Augustin Pic, ce qui est savoureux, de citer le texte qu'a donné le journal L'Humanité en 1914 pour la mort de Saint Pie X. L'Humanité disait ceci: Saint Pie X, dont l'œuvre est une œuvre toute apostolique et pleinement, il n'y avait pas de crise de la foi pour Saint Pie X. Et voilà ce que titre L'Humanité: on doit dire qu'il fut un grand pape. Sa politique fut très simple, elle consistait à restaurer les valeurs de la foi avec une fermeté apostolique. De quelque façon qu'on le juge, il faut dire que Pie X a été un grand pape. Alors vous, si l'Église est sainte, nous l'avons compris, les pécheurs qui la composent sont appelés à la sainteté et par les moyens de sanctification qu'il y a dans la Sainte Église, et vous nous les rappelez dans France catholique.
Oui, le Père Pic parle de la liturgie, de l'écriture, des sacrements, de la tradition du magistère, de l'exemple des saints, mais surtout aussi, plutôt, et cela va particulièrement intéresser les auditeurs de Radio Maria, le Père Pic nous rappelle que la Vierge est un modèle de sainteté et que son intercession est à rechercher par excellence. Il rappelle aussi le Père Pic que le fait que les catholiques et que les hommes soient des pécheurs dans une structure sainte implique bien qu'il y a une aspiration nécessaire à la conversion personnelle, mais que cette aspiration à la conversion personnelle ne doit pas dispenser l'Église de réformer ce qui doit l'être dans ses institutions, et notamment ce qui a trait aux délinquants et aux crimes. Mais selon Père Pic, et c'est la conclusion de son interview, la réforme est nécessaire, et au demeurant, vous connaissez peut-être l'expression latine hein, de Semper Reformanda, que l'Église se réforme toujours, et à travers les siècles, les saints notamment ont toujours réformé l'Église. Le père dominicain nous dit que, n'en déplaise aux profiteurs, cette réforme doit exclure toute atteinte à la divine constitution de l'Église.
Alors, il y a une autre formule latine que devait certainement se redire et que connaissaient Saint Charles Borromée et Saint François Borgia. C'est celle-ci: Corruptio melior, pessimi. Ça veut dire la corruption du meilleur donne le pire. Alors, plusieurs grandes figures, mais en particulier arrêtons-nous sur celle de Saint Charles Borromée dans France catholique de cette semaine pour illustrer justement hein, ce mystère et ce paradoxe de l'Église à la fois sainte et en même temps toujours en train de se réformer.
Oui, alors c'est une gageure hein, d'évoquer Saint Charles Borromée dans un article de presse pour la simple et bonne raison que toute sa vie a été vraiment d'une densité absolument remarquable. Et voilà, des livres et des livres ont été écrits sur lui et ça ne suffit pas. D'ailleurs, on évoque les évêques hein, en ce moment dans les médias et voilà un modèle dont tous peuvent s'inspirer. En deux mots, Saint Charles Borromée, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il était le neveu du pape Pie IV. Il a été créé cardinal lorsque la curie est rongée par la décadence et aussi dans un contexte particulier, puisque c'était l'époque de la diffusion des erreurs protestantes. Alors, un premier signe, si je puis dire, tôt dans la vie de Saint Charles Borromée, qui a montré à quel point il était appelé à un destin remarquable, c'est qu'il va immédiatement tourner le dos à la mondanité, puisque lorsque son frère aîné meurt, Saint Charles Borromée, qui avait déjà embrassé le sacerdoce, se retrouvait l'héritier de la grande famille à laquelle il appartenait, une famille très, très riche, et la coutume de l'époque eh bien, voulait qu'il quitte les ordres pour reprendre, si je puis dire, la famille. Simplement, il va chasser ça d'un revers de la main et va rester fidèle à son sacerdoce, ce qui était signe d'une très grande humilité et un signe, autre d'ailleurs de son humilité, c'est tout simplement qu'il refuse eh bien, l'accession au trône de Pierre hein, qu'on lui avait fait pourtant miroiter. Alors il va participer au Grand Concile de Trente, il va participer à la rédaction du catéchisme tridentin qui va vraiment fixer, donner un cadre très fort à la foi catholique. et permettre ce grand mouvement de réforme catholique, hein, qu'on appelle un peu abusivement celui de la contre-réforme, hein, sauf que la réforme catholique n'était pas une simple réponse à la réforme protestante, mais bien un renouvellement de l'Église par l'intérieur. Saint Charles Borromée va devenir par la suite archevêque de Milan en 1565, et si je précise qu'il devient archevêque de Milan, c'est parce qu'il s'installe à Milan, justement, conformément aux demandes du Concile Tridentin, qui ne voulait plus que les évêques voilà, soient un peu répandus aux quatre coins du territoire. Milan, c'est intéressant parce que, note Anne Bernet qui a écrit l'article, Milan était une ville représentative de l'état de la catholicité. Là, je vous cite quelques lignes. Hein. Anne Bernet nous disait qu'à Milan, les fidèles étaient dégoûtés, les prêtres indignes, les religieux scandaleux. La pratique était en chute libre. Dans une certaine mesure, on peut faire un certain parallèle avec notre époque. Et ce qui est intéressant, c'est que Saint Charles Borromée va mettre en place des solutions très concrètes. Il va faire venir à Milan des ordres religieux acquis au Concile de Trente, les jésuites, les oratoriens. Il va créer des séminaires. Il va restaurer la discipline ecclésiastique. Il va notamment demander aux moines qu'ils retournent et qu'ils soient fidèles à leurs règles. Il va demander aux religieuses de retourner, si je puis dire, derrière leur clôture et retrouver une vie de prière, et il va tellement réformer qu'il va même être victime d'une tentative d'assassinat en pleine messe. Mais alors il va tenir bon, et il va même devenir le docteur des évêques, puisque les évêques des quatre coins de la chrétienté vont venir puiser dans ses ordonnances et ses lettres pastorales pour appliquer la réforme catholique. Et puis il faut bien sûr souligner que la fermeté de Saint Charles Borromée allait de pair avec sa charité, notamment à l'encontre des malades, des miséreux, et puis auprès des enfants qu'il va énormément catéchiser.
Alors nous l'avons compris, il y a des pages exhaustives hein, sur Saint Charles Borromée, il y a aussi sur Saint François Borgeois, et aussi cette semaine, en France catholique, vous faites le point sur les accusations convoquées pour faire le procès de l'Église. Hein, ces marronniers, les croisades, l'Inquisition, les Borgia.
Oui, c'est un article signé Fabrice Madouas hein, qui reprend différents arguments voilà, brandis depuis des siècles pour nier justement à l'Église sa nature simple. Un seul exemple peut-être, celui des croisades, hein, ça ne date pas d'hier puisque c'est Voltaire hein, qui connote le terme, le célèbre philosophe des Lumières donné pour définition des croisades, guerre patronnée par l'Église pour n'importe quelle cause et de manifestation de fanatisme. Alors on rappelle que lorsque Urbain II prêche la croisade le 27 novembre 1095, il lit bien un pèlerinage vers Jérusalem, un pèlerinage assez particulier, puisqu'il s'agit de prendre des armes et d'aller défendre la Terre Sainte, d'aller défendre les chrétiens de Terre Sainte, puisque la violence des croisades était la violence d'une guerre juste, en ce sens qu'elle défendait les chrétiens d'Orient de l'agression musulmane, puisque depuis près de 1000 ans à cette époque, eh bien, 30 000 églises avaient été pillées ou incendiées. Le patriarche de Jérusalem en 966 avait été brûlé. Bref, on est bien loin de catholiques qui partent l'épée à la main assoiffés de sang. Hein. Ce n'est pas ce que dit l'histoire, et c'est ce que nous rappelons, que les croisades étaient une guerre juste, dans le sens, bien sûr, catholique de la chose.
Alors, en lisant France catholique de cette semaine, on se rapprochera de cette réalité que dans la Sainte Église, il n'y a finalement que deux chemins, celle de la carrière ou du martyr. Et là, nous finissons l'hebdomadaire cette semaine avec une belle initiative, une neuvaine lancée par le philosophe Thibaut Collin et une neuvaine à Sainte Jeanne d'Arc.
Oui, une neuvaine un peu particulière, puisque c'est une neuvaine de 9 ans qui s'intitule Jeanne 2031, puisqu'en 2031, ce sera le 600e anniversaire de la mort de Jeanne d'Arc. Alors, cette neuvaine consiste à prier par l'intercession de Sainte Jeanne d'Arc, hein, puisque Thibaut Collin instaure un parallèle entre l'époque de Jeanne d'Arc, qui à l'époque était à vue humaine catastrophique, et la nôtre, et puis surtout une neuvaine à Sainte Jeanne d'Arc pour essayer d'exercer les mêmes vertus que la Vierge de Domrémy, hein, l'écoute et la disponibilité à la volonté de Dieu, la prudence, le courage, l'espérance, la charité, la pratique des sacrements, la pureté et la patience, bref, tout un programme à déployer sur les 9 prochaines années.
Constantin de Vergennes, faisons peut-être ce que nous pouvons faire de mieux priez. La Très Sainte Vierge Marie, vous commencez, je le rappelle, France catholique, avec Notre-Dame, vous finissez avec la Sainte Vierge Marie aussi, votre bel hebdomadaire, et vous nous proposez cette prière-là, tirée du refrain du Cantique des Gascons à Notre-Dame. Je veux te prier souvent, je veux t'aimer toujours, Vierge gracieuse. L'ange dit Ave, avec une voix amicale, je te le dirai aussi, Dame de pitié. Quand toute notre âme est à l'abandon, quand le mal s'y met comme un aiguillon, de toute notre âme, Jésus est la route. Vous, Mère, vous êtes la source. Dans ce monde tout plein de tracas, nous vous prions tous ensemble pour que vous veniez. Faites briller sur le monde, partout à la ronde, un rayon de paix. Bonne Mère, à l'heure de partir pour le ciel, que l'âme demeure blanche comme neige. Et quand sonne l'heure, mettez-moi bien vite avec Jésus au ciel. Amen et un très grand merci, Constantin de Vergennes, de cette revue commentée et de votre passage sur les ondes de Radio Maria France. Nous aurons la joie de vous retrouver jeudi prochain.
Merci Olivier, à la semaine prochaine.
Chers auditeurs, c'était notre émission France catholique, la revue commentée. Nous étions avec Constantin de Vergennes. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.